J'ai la ref, l'invité de la semaine sur Radio G.
Aliénor, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
J'ai maxé un peu, non? J'ai un peu abusé du...
Oh non, c'était bien, c'était bien.
Tu es professionnelle du bien-être et tu agis vraiment dans plusieurs domaines dont l'anxiété, les traumatismes ou encore les phobies. Et on est là aujourd'hui pour qu'on puisse discuter avec toi de ton métier et de ton activité et un peu de l'activité de ton compte Instagram parce que tu as un compte qui s'intitule Ali-Thérapie. Première petite question, on voit donc sur ce compte Insta que tu as mis que tu étais donc une thérapeute mais tu as précisé le mot certifié. Est-ce que pour toi, c'est un moyen de te distinguer des comptes, entre guillemets, de charlatans, de personnes qui peuvent proposer ou vendre de mauvais conseils ou être des imposteurs?
Ben oui, parce qu'on voit de tout, surtout en thérapie, parce que c'est en vogue, c'est la demande, qu'il y a aussi de tout au niveau des formations, quoi. Ça peut être accessible sur Internet en une semaine, alors qu'il y a des écoles certifiées qui vont suivre pendant des années. Donc c'est quand même pas le même apport, on va dire. Et surtout avec Internet maintenant, parce qu'il suffit de créer un compte, de donner divers conseils. Et le problème, c'est qu'on peut vite se perdre. Et puis, il y a aussi des gens qui sont fragiles, en fait, qui suivent ces comptes-là. Donc forcément, oui, c'est un moyen quand même de se distinguer et puis de parler aussi de toutes les dérives qu'il peut y avoir, rien que ça.
Les thérapies que toi tu pratiques, notamment il y a la méthode de l'hypnose, qu'on peut aussi appeler l'hypnose ericksonienne, ou encore la méthode de l'EMDR, qui n'est pas une thérapie par le rire, je rassure tout le monde. mais qu'est-ce que c'est du coup? Parce que l'hypnose ou l'hypnose ericksonienne, pardon, on voit grosso modo ce que c'est, mais on va en parler en détail tout à l'heure. Mais l'EMDR, qui s'écrit E, hein, avec la lettre E au départ, EMDR, qu'est-ce que c'est?
Pourquoi pas, qu'est-ce on avait compris. Hein. Mais alors l'EMDR, c'est pour digérer des traumatismes. Okay. Donc en fait, c'est une thérapie dans laquelle on cible soit une période précise, soit une scène de vie, quoi, qui pourrait même durer 10 minutes. Mais un traumatisme, c'est une scène qui a un avant et un après, donc qui va créer des blocages, des peurs, des maux. Et nous, l'idée, c'est de le digérer pour que toutes les manifestations qu'il y a dans la vie, elles puissent cesser, quoi.
Donc par exemple, j'ai eu un accrochage, une prise de tête avec un ou une meilleure amie, ça s'est terminé en une seule conversation et du coup j'arrive plus à créer de nouvelles relations. Ça peut faire partie des exemples de périodes de vie qui peuvent être mis en avant avec le MDR.
Exactement, c'est okay. Un très bon exemple.
Ok.
C'est recréer aussi la confiance, la sécurité derrière, réaligner les croyances quoi qui se greffent à un moment donné et qui sont pas aidantes en fait.
Autour du plateau. Ou sur le chat, si vous avez des questions pour Aliénor, vous pouvez les poser. Est-ce que vous avez une question pour l'instant sur le plateau, pas Cassandra?
Ouais, je veux bien savoir le parcours pour faire ça.
Ok. Alors moi, j'ai commencé en fait par l'hypnose ericksonienne. Donc ericksonienne, c'est la technique, hein, c'est-à-dire que c'est l'hypnose qu'on retrouve autant en clinique qu'en libéral. Donc là, on a un cursus de 2 ans pour moi. Au début, j'ai été praticienne, c'est-à-dire que je pouvais exercer en cabinet. Après, j'ai l'équivalent du master en fait en hypnose, maître praticienne en hypnose. Et ensuite, je me suis formée à l'EMDR, parce qu'il faut déjà un pied dans l'accompagnement. Et plus récemment, je me suis formée à la systémie. Donc, c'est la thérapie de couple et de famille.
Okay.
L'étude des liens relationnels, etc.
Ok, merci.
Donc, il y a plusieurs formations que tu suis pour toi compléter ton éventail d'outils à utiliser avec tes patients.
Oui, c'est ça. Ouais, exactement.
Parmi les domaines sur lesquels tu interviens, tu viens d'en citer certains. Il y a notamment l'anxiété, les traumatismes ou encore les phobies. Concrètement, les boîtes à outils que tu as et que tu utilises, est-ce qu'il y en a une par personne, ou est-ce que dans les consultations que tu fais, tu trouves quand même un schéma de répétition qui fait que d'un patient à l'autre, tu utilises à peu près les mêmes outils?
Alors, c'est très propre à chacun, c'est propre à la demande, à ce que la personne aussi se sente de faire ou de ne pas faire. Si on prend l'exemple de l'EMDR, c'est une thérapie qui est frontale, qui demande quand même de se remettre dans ce qui n'a pas été facile. Donc, il faut le vouloir, tout simplement. Mais c'est très complémentaire, c'est-à-dire que dans les suivis, souvent, on a autant du conversationnel que de l'hypnose, que de l'EMDR. Et puis, nous, en tant que thérapeute, notre rôle, c'est aussi de conseiller au mieux quoi faire.
Ça se voit que tu t'es habitué à prendre la parole parce que fais des réponses concises, précises. On sent l'expérience dans la prise de parole. Mais de toute façon, tu fais un peu de conférences aussi.
Oui.
Donc
il
y a de ça.
Ouais, c'est
ça dans,
vrai, ça aide aussi.
Dans tes activités. Autour de la table, est-ce que vous avez déjà fait de l'hypnose?
J'ai tenté.
Astrid, t'as tenté, ouais. Ça s'est soldé comment sur toi?
En fait, c'était le premier rendez-vous qui était censé déterminer si j'étais
réceptive.
Susceptible. Ouais, enfin réceptive. Waouh.
Si j'étais susceptible.
Voilà. Le dernier. Enfin, non, réceptive.
Ok.
Je suis pas convaincue de la méthode qui a été employée sur moi et du coup je suis pas sûre d'être réceptive parce que c'est pas parce que je fais de la communication, il me semble, que je suis réceptive à l'hypnose.
Ok.
Mais après, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas.
Cassandra, est-ce que t'as déjà fait l'hypnose?
Non, jamais.
Non. Amaury?
Non, jamais.
Non plus. Ok. Aliénor, dans le concret, comment ça fonctionne? Parce que il y a deux écoles sur les croyances autour de l'hypnose. Soit ça marche pas du tout, ça n'existe pas, c'est que du pipeau, ou des personnes qui tentent et qui veulent y croire et pour qui ça marche ou pas. On parlait de réception avec toi, Astrid. Donc concrètement, comment ça fonctionne? En faisant simple. Enfin, si on peut faire simple.
Oui, on peut faire concis, heureusement. L'hypnose au début, moi, mon premier rendez-vous, par exemple, c'est que de la conversation pour apprendre à se connaître, pour cerner un petit peu les objectifs, réorienter s'il y a besoin. Mais si on part sur de l'hypnose, déjà, c'est de la relaxation. En fait, on veut amener la détente du corps et ensuite passer sur l'esprit, quoi. L'idée, c'est de déplacer un petit peu le curseur de toutes les croyances qu'on peut avoir, de tous les blocages. En fait, on est dans des états de concentration en fait extrême. Mais si vous voulez, c'est un petit peu comme quand on regarde un film. Mmh. On est conscient qu'on est dans la pièce, mais on est happé par ce qui est en train de se passer. Donc normalement, en tout cas en hypnose ericksonienne, il n'y a pas de réceptivité.
Ok, d'accord.
Dans le sens où c'est physiologique. Par contre, il faut amener la détente autant de temps qu'il faut pour pouvoir sentir qu'il se passe autre chose. Mais une fois qu'on est détendu, on passe dans des ondes qui sont intéressantes, là où l'esprit il vient un petit peu trier, ordonner la mémoire, et on a accès à l'inconscient, donc à nos peurs, à nos blocages, et c'est là que ça devient intéressant en fait.
Ok, et là toi tu parviens t'interviens pour poser des mots et tirer des infos pour accompagner la personne à soigner ses blessures.
Ouais, c'est ça, ouais. Puis déplacer le curseur, créer de l'expérience. En fait, au début, l'idée, c'est de réaligner le passé, donc d'apporter de la sécurité, et ensuite de pouvoir appréhender le présent plus facilement, quoi.
Okay. Je sens qu'il y a plein de personnes qui se sentent concernées là par ce que tu dis et par notamment cette explication sur l'hypnose. Si vous avez d'autres questions autour de la table et du plateau, vous me dites notamment sur le chat radio-g.fr ou sur le live vidéo. On va parler un petit peu du compte Instagram avant la pause musicale. Donc il y a deux comptes Instagram qui sont en lien avec ton activité. Nous on va se concentrer sur le plus actif, Ali-thérapie sur Instagram. Moi je l'aime bien parce que il ressemble pas au compte professionnel classique. Un compte pro, à mon sens, on voit souvent que les comptes pro sur Insta sont là juste pour vendre. Chaque publication, c'est je vends une formation, je vends un truc, je fais ci, je fais ça, et c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas d'épices dans le truc. Alors que sur ton compte, il y a un mélange de vie perso, de conseils pratiques et même de vidéos en mode création de contenu. Donc ça crée une page vivante et ça crée, à mon sens, un intérêt sur toi en tant que personne et toi en tant que professionnel. Sur tout ce qui est publié, est-ce que toi tu tiens un rythme par rapport aux publications, ou alors tu vas au feeling quand tu te dis ok, je veux faire une vidéo, je l'avais, parce que les vidéos que tu fais sont pas juste tu parles point barre. Tu travailles tes miniatures, il y a des sous-titres, tu travailles tes plans, etc. Donc est-ce que c'est vraiment sur le moment où tu te dis ok, là je dois sortir une vidéo?
Alors, j'essaye de tenir un rythme. Au début, c'était l'objectif. Et je me rends compte que c'est un peu compliqué avec la vie qui se greffe. Et puis, ça fait partie maintenant de mon métier parce que j'ai envie de l'alimenter. Mais à la base, c'est pas ce que je fais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, c'est plus au feeling. Voilà. Okay. On va dire que quand j'ai une idée, je la mets en place. Et en fait, je prends du plaisir à le faire. Mais c'est pas facile de prendre le temps. Plutôt ça.
Ouais, je me doute bien. Je vous laisserai aller voir parce que un truc qui revient beaucoup sur ton compte Insta et qui moi je sais pas me marque, c'est le tableau qu'il y a derrière ton siège. Il y a un tableau que vous allez voir d'un c'est un chien je crois.
Oui, c'est un petit chien.
Avec plein de petites couleurs au niveau niveau colorimétrie, et c'est grave intéressant et moi ça m'accroche directement, et c'est un peu des trucs ça fait partie des trucs qui me font moi rester sur la vidéo, me dire oh, je vais revoir le tableau.
Voilà. Mais c'est vrai, oui l'esprit il associe aussi plein de petites choses quoi familières à la fin. Mais c'était pas voulu, tu vois.
Mais c'est ton tableau à toi, tu l'as pas mis spécialement pour les vidéos.
Non, il est dans le cabinet. Vous pouvez le trouver juste derrière moi, en cabinet aussi. Ouais.
Pour la création des vidéos, tu fais tout toute seule ou t'es aidée?
Je fais tout toute seule majoritairement. Après, j'ai mon copain qui m'aide un petit peu, je dois dire. Mais dans l'idée, oui, après, je prends les conseils de mes amis. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose au début, on va dire. Mais je fais le maximum toute seule, ouais.
Il nous reste encore quelques petites questions à te poser pour te découvrir et découvrir ton activité. Et notre invité ce soir, Aliénor.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Invité de ce soir, donc thérapeute sur plusieurs méthodes, thérapeute certifié, je préfère le préciser, sur plusieurs méthodes. On parlait tout à l'heure de d'hypnose ericksonienne, de MDR, et la dernière formation que tu as eue, c'est sur
La systémie. Pour suivre les couples, les familles, en cabinet aussi.
Thérapie de couple et thérapie de famille. Je vous entends dans vos esprits autour de la table et chez vous sur incroyable, je pense que j'en ai besoin. Et ben, vous écoutez cette séquence et puis après, si vous avez besoin, vous pouvez soit aller voir Aliénor ou des confrères ou des consoeurs pour vous faire aider et accompagner. On discute donc avec toi pendant quelques minutes encore, Aliénor. Je voulais parler de ton compte Instagram toujours pour te contacter. On peut passer par ton site internet en cherchant Aliénor. Alors j'espère que je vais bien le prononcer. Aliénor Nguyen.
Oui, c'est bien.
C'est ça, ouais. Qui s'écrit Nguyen ou en passant par le compte Instagram Ali-Thérapie. Comme ça, on peut te voir toi en présentiel, en visio ou encore en conférence, comme on disait tout à l'heure.
Exactement.
Moi, ma question sur les conférences, parce que toi, t'accompagnes les personnes sur le bien-être, t'es thérapeute. Et du coup, quand on te propose de faire une prestation en conférence, qu'est-ce que tu fais dans le concret? Parce que tu peux pas faire une thérapie sur 50 personnes.
Exactement, ouais. On n'est pas dans la thérapie, on est plutôt dans l'information. C'est-à-dire qu'on va transmettre les informations nécessaires pour arrêter de fumer, les dangers du tabac par exemple, la gestion des émotions. Ça va plutôt être des outils en fait qu'on va donner aux gens. Et puis après, bien sûr, il y a parfois en individuel des personnes qui vont à la fin venir poser des petites questions. Mais ça reste une approche globale, quoi, où on transmet plutôt des outils précis.
Et après, t'as certainement des personnes qui viennent soit poser des questions pour compléter ou alors qui viennent en séance après, ce qui reprend en fait le principe de ton compte Instagram où tu partages quelques petits conseils.
Oui, aussi. oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Et sur ton compte Instagram, sur les différents conseils qu'on a, il y a, et on va prendre un petit peu de temps dessus, le triangle de Karpman. Je vous laisse écouter ce que c'est.
Si tu cherches souvent à sauver les autres, tu es très certainement coincé dans ce qu'on appelle le triangle grammatique de Karpman. C'est un schéma relationnel dans lequel on va jouer un rôle sans forcément s'en rendre compte. On retrouve le sauveur, celui qui veut aider, qui veut réparer, qui veut conseiller, sans forcément qu'on lui ait demandé de l'aide. Le sauveur, il a tendance à s'épuiser et il pourrait même empêcher l'autre d'évoluer. En faisant ça, il a besoin de se sentir utile, valorisé, pris en compte. Alors il recherche sa victime parfaite. La victime, c'est celle qui se sent incomprise, qui se sent malchanceuse, qui se sent inutile et qui attend qu'on vienne l'aider. Elle cherche désespérément son sauveur. Elle se plaint sans forcément agir. Elle attend simplement qu'on la prenne en charge. On retrouve ensuite le persécuteur, celui qui juge, qui critique, qui rabaisse, qui blâme. Et il fait cela souvent parce qu'il est à bout. Le problème là-dedans, c'est qu'il fait peur, c'est qu'il est en train de blesser. En fait, il choisit la victime parfaite. Et même si on a souvent un rôle prédéfini dans ce triangle, on bascule facilement d'un rôle à l'autre.
C'est intéressant parce que si on écoute bien, donc c'est extrait de ton compte Instagram, si on écoute bien, en fait, tout le monde peut occuper chacun des trois rôles du triangle de Karpman. Ma question, comment toi tu parviens à voir dans quel rôle sont les patients au moment où ils arrivent? Juste en parlant, est-ce qu'il y a des exercices pratiques ou autres?
En fait, on échange. Et le premier rendez-vous, comme je le disais, en fait, on apprend à se connaître. Et c'est souvent très cohérent au niveau du vocabulaire, des placements et même des problématiques en tant que telles. Il y a des gens qui arrivent et qui sont conscients aussi de ces schémas-là. Donc, ça paraît plutôt évident, on va dire, dans lequel des rôles une personne a tendance à s'inscrire plus facilement, en tout cas. Voilà. Et après, on oriente, on en parle. Mais de toute façon, on est tous un peu victimes de ces schémas-là, surtout le triangle de Karpman, après à plus ou moins grande échelle. Et c'est ça qui est important à évaluer aussi, quoi.
Ouais, l'idée, c'est surtout d'en avoir conscience et de pouvoir vivre au quotidien avec ça avant de pouvoir le soigner complètement.
Oui, c'est ça. Oui. Oui, et puis, tu vois, quand tu as une dispute avec quelqu'un, forcément, tu prends un mode.
Oui.
Bon, ça, c'est pas trop grave. On va dire que ça fait partie de la vie.
Oui.
Le problème, c'est quand c'est récurrent tous les jours et que ça devient problématique pour la personne.
Et sur le plateau, est-ce que vous avez une dernière question pour notre invité Aliénor, Amaury?
Oui, je me demandais, c'est quoi la différence claire, par exemple, avec les psychologues, psychothérapeutes, psychiatres?
Oui, entre toutes ces thérapies dans tous les sens. Alors, moi, je suis pas psychologue, mais c'est une approche complémentaire. On va dire que moi, je suis plutôt orientée objectif. Je vais me concentrer sur le comment on peut résoudre la problématique, s'en rendre compte assez rapidement. Alors, je prends des pincettes parce que ça peut durer plus ou moins longtemps, mais on va dire que c'est plutôt clair. On oriente sur une évolution, une transformation intérieure, quoi. Donc, on fait du conversationnel, mais pas que. On a des outils spécifiques, quoi, si tu veux. Voilà, je ne sais pas si tu réponds à ta question, si tu veux que je précise.
Ouais. Ah, il est tellement concentré qu'il a pas parlé dans le micro. je suis mort. Ça répond à ta question, Amaury?
Oui, ça répond. Ouais,
okay. Mais ça se voit, mais t'étais très très concentré et heureusement, ça prouve que ça fonctionne. La prise de parole que tu as aussi, Aliénor. Pour conclure notre échange, est-ce que toi tu aurais une ou deux raisons pour que les personnes qui soient un peu renfermées ou en souffrance intérieure aillent voir un professionnel, peu importe lequel, pour se faire accompagner? Parce qu'il y a encore ce truc en France niveau santé mentale de je veux pas me faire accompagner, je reste dans mon coin. Est-ce que toi, en tant que professionnel, tu aurais des conseils ou des raisons pour qu'on aille voir nous un professionnel pour se faire accompagner?
Bah oui, bah je pense qu'on n'est pas condamné à rester dans des blocages, dans des maux, parce qu'on a tendance parfois à penser que ça fait partie de nous. Je prends l'exemple de l'anxiété ou des phobies. Souvent, on a l'impression que c'est incurable, quoi. Je suis hémétophobe, par exemple, pour faire du vomi. C'est placé dans l'identitaire directement. Et c'est ça le problème, parce que c'est quelque chose qui se greffe à la vie à un moment donné. Et heureusement, bah, ça peut partir, quoi. Donc, c'est important de le rappeler, il y a toujours un chemin. C'est courageux d'ailleurs d'aller voir quelqu'un parce que c'est pas simple, ça remue de travailler sur soi, mais heureusement que c'est libérateur et qu'il y a aussi plein de thérapies différentes qui vont convenir à certains et voilà, peut-être à d'autres pour d'autres personnes, c'est pas grave, c'est de trouver ce qui convient quoi.
Merci beaucoup à toi Aliénor pour cet échange, ça a été là sur ce petit quart d'heure.
Oui oui, parfait, merci beaucoup pour l'invitation surtout.
Pas de souci, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Comme je l'ai dit, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas pu aborder parmi toutes les activités que tu fais et les prestations en tant que professionnel. Donc moi je vous incite très fortement à aller contacter Aliénor sur le site internet ou sur Instagram ali-thérapie. En plus il y a plein de conseils déjà de base à aller voir avant d'aller plus loin dans l'action, donc ça peut vous permettre au moins de répondre à certaines de vos questions. Tu es thérapeute à Angers et on remettra toutes les infos sur le podcast de cette interview que vous pouvez trouver dès demain sur le site radio-g.fr.